Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Bonjour, bonsoir, bon appétit, choisissez ce que vous voulez, mais bienvenue dans l'épisode 561 du podcast Jeanne Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous pour une nouvelle preview. Cette fois, c'est la semaine 16 dont on va parler, la semaine de NFL, et avec moi pour parler justement de cette semaine 16, Victor Rouillet. Comment ça va, Victor ?
Eh bien, bonjour Lucas, bonjour à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Je te remercie pour cette entrée punchy malgré des problèmes techniques que je t'ai mis dans les pattes. Tu gardes ton focus, c'est assez impressionnant.
Oui, oui, on a été obligé de la refaire deux fois. J'espère que j'ai été aussi bon sur la deuxième que la première. Je trouve que j'ai été meilleur sur la première, mais personne ne pourra l'entendre puisque on n'a pas pu l'enregistrer. Tant pis pour vous, messieurs, dames. Écoute, Victor, en tout cas, on va y aller, on va démarrer. On a une semaine classique, on a une semaine chargée surtout, avec, comme d'habitude, le débat de la semaine. On va parler de Détroit. On a une affiche en NFC, ce sera les Giants face aux Vikings. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec le hypomètre et le hypomètre, pardon, les codes de la semaine. Voilà, comme je vous l'ai dit, un podcast chargé. On va commencer direct avec ce débat sur les Lions.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les Detroit Lions, la franchise à 7-7, un bilan équilibré, une franchise qui a commencé avec un bilan de 1-6. Ils sont désormais à 6 victoires en 7 matchs, donc ça fait plus de 100 ans que la NFL existe. Il n'y a eu qu'une seule équipe qui a réussi à aller en playoff en commençant par un 1-6, c'était les Bengals en 1970 pour les amis de l'histoire. Et il y en a seulement 4 qui l'ont fait alors qu'ils avaient commencé à 1-5. Autant dire que les statistiques ne sont pas vraiment en la faveur des Lions, mais pourtant, ils ont une belle dynamique. Victor, je posais la question à Raph hier. Est-ce que déjà, pour toi, ce sont des candidats aux playoffs ?
Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au niveau du niveau de jeu, ça fait déjà quelques semaines qu'on les voit comme des candidats aux playoffs, entre guillemets. Sauf que devant, bah, si on part du principe qu'il y a les 4 vainqueurs de division plus les Cowboys, il reste place, il y avait Giants, et Commanders et les Seahawks. Mais force est de constater que les Seahawks sont en train un petit peu de perdre fil, que les Commanders ont perdu face aux Giants, et que les Giants, c'est pas non plus la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, certes, ils sont techniquement derrière ces trois équipes, encore que le bilan soit égal à Seattle, mais au niveau de la dynamique, il n'y a rien à dire. Ils sont largement au-dessus des autres, et au niveau de la qualité de jeu, ils sont largement au-dessus des autres aussi.
Oui, pour l'instant, tu le disais, Détroit n'est pas qualifié, pas position de qualifiable pour l'instant si la saison s'arrêtait ici. Mais en effet, on voit les Giants 6e, les Commanders 7e. Derrière, il y a les Seahawks qui sont 8e et les Lions sont juste la 9e. Donc en fait, comme tu l'as dit, il y a un peu deux équipes pour 4 places. Tu l'as dit, pour toi, ils sont déjà en position de se qualifier. Ils jouent les playoffs. On va jouer un petit jeu. Du coup, je vais te poser deux questions. Déjà, pourquoi, pour toi, les Lions vont aller en playoff ? Et tu t'imagines qu'après, la question, ça sera pourquoi ils ne vont pas aller en playoff ? On commence par le côté positif. Pourquoi ils vont aller en playoff ?
Bah déjà, parce que le calendrier est très abordable. Panthers, Bears, Packers. même si on ne doute pas de la motivation de Aaron Rodgers pour foutre la merde en dernière semaine, hein, parce que c'est le genre de personnage qui aime ça, encore que ça sera peut-être Jordan Love, mais en tout cas, ils ont un calendrier tout à fait abordable. Et puis, ils ont surtout une des meilleures attaques de la Ligue. C'est-à-dire que sur le papier, déjà avant le début de la saison, on disait « si ça tourne, ça peut être vraiment bon ». Et finalement, bah, ça a tourné au début, ça a eu un petit creux et finalement, c'est reparti. Aujourd'hui, ils ont une ligne offensive qui est top 3 de la Ligue. Vraiment, pour moi, c'est même incontestable. Ragno, Decker, Sewell, c'est top 10 à leur position. Jackson et Brown, c'est loin d'être ridicule. Ils ont de la puissance offensive aérienne avec notamment Sam Brown qui est un phénomène. Ils ont évidemment de la puissance au niveau des running backs avec Swift, mais surtout avec Williams. J'ai peur d'écorcher son prénom, mais c'est Jamal. Hein,
si Jamal, exactement. Jamal Williams.
Qui est une machine dans la red zone. Et on sait à quel point, pour ces équipes-là, parfois, ce qui est un peu difficile, c'est concrétiser des beaux avancements sur le terrain par un touchdown. Bah, cette année, Jamal Williams, il te transforme n'importe quelle, presque n'importe quelle opportunité de red zone en touchdown.
Ça fait 14 touchdowns pour lui.
Mais c'est précieux. S'ils en sont là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et je vais être polémique, hein, mais il jouerait aux Chiefs. Il y en a qui parleraient de lui pour joueur offensif de l'année. Mais il joue aux Lions, c'est moins le cas. Et dernière chose, la défense. Parce que la défense, elle a commencé la saison sur des bases historiquement faibles. C'est-à-dire qu'on parlait de la pire défense de l'histoire. Là, aujourd'hui, avec les prestations des derniers matchs, si on regarde en DVOA, ils ne sont même pas dans le bottom 10. Ils ne sont même plus dans le bottom 10, puisqu'ils étaient 32e. Maintenant, ils sont, je crois, 21e, si je dis bien. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce qui est un peu inédit, c'est que la défense vient aussi au secours de l'attaque et fait sa part du travail. Donc, la dynamique, elle est bonne de partout. Les joueurs adhèrent au discours du coach. On sait que notre cher ami Campbell, c'est un coach un peu clivant, mais ce genre de meneur d'homme, les années où ça adhère, ça peut faire des très belles choses. Les années où ça adhère pas, ça peut être catastrophique, mais c'est un autre débat. Mais c'est un peu comme Doug Pederson, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas un joueur dans ce vestiaire qui va dire « j'aime pas le mec ». Donc pour moi, tous les ingrédients sont réunis pour faire une incroyable fin de saison.
Ouais, alors là, tu nous as dit beaucoup de choses, en effet. On va justement prendre petit à petit les choses parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce que tu as donné. En effet, déjà, je revenais sur Jamal Williams. Tu l'as dit, il est à 839 yards cette saison, 14 touchdowns à la course. En effet, ce sont des statistiques qui sont plutôt impressionnantes et on n'en parle peut-être pas assez. Alors, pour l'instant, les Lions, ils ont 29% en termes de pourcentage de chance d'aller en playoff, pour ce que ça vaut, hein, parce qu'on n'est pas forcément obligé de croire ça, selon les analytics d'ESPN. Mais pour ce que tu as dit, en effet, il y a beaucoup de choses à retirer. Moi, je trouve, j'ai eu l'occasion de le dire hier, notamment dans le podcast, que le match de la semaine dernière face aux Jets est vraiment symbolique et symptomatique de ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que c'est pas un match, en effet, on les a vus éclater des équipes, ou en tout cas, on les a vus marquer beaucoup de points. Là, ils marquent que 20 points, mais c'est symbolique dans le sens où ils affrontent une très bonne défense et l'attaque, comme tu le disais, est capable de trouver des solutions. Alors, Jared Goff est plutôt bon, voire très bon parfois, surtout il évite des erreurs. Il y a des solutions à trouver au sol, parce que tu l'as dit, tu as cité les joueurs. Il n'y a pas de receveurs incroyables, mais il y a des receveurs bons, Amon-Ra St. Brown notamment. Et en fait, ils sont capables, en attaque, de trouver des solutions un petit peu partout et un petit peu face à n'importe quelle défense. Et forcément, ça, c'est une nouveauté déjà à Détroit. Et c'est un fait qui leur permet d'imaginer les playoffs.
Ah oui, moi, je suis dans le train, là. Tu vois, je regardais Washington, ils affrontent quand même les Niners et les Cowboys. Seattle, ils vont affronter les Chiefs et les Jets. Enfin, je veux dire, globalement, on peut... Les Giants, ils vont affronter Vikings et les Eagles. On peut considérer que le calendrier le plus facile, c'est Détroit et de loin.
Oui, parce que Détroit va aller jouer à Carolina, c'est ce week-end, on en parlera. Ils joueront les Bears, ils recevront les Bears lors de la semaine 17 et ils termineront par un match aux Packers qui seront peut-être éliminés d'ici là. On verra, mais tu l'as dit, peut-être qu'Aaron Rodgers voudra lui aussi bien terminer la saison. Mais en tout cas, oui, il y a une possibilité, il y a un calendrier qui est plutôt favorable. Après, voilà, tu l'as dit, tu es dans le train. Tu es dans le train de la hype, comme on dit. Tu es dans le train qui va au play-off pour Détroit. Mais je vais te poser une question, forcément. Je te disais, c'est le jeu. Pourquoi les Lions ne vont pas aller en playoff, parce qu'on est obligé d'en parler, ils n'ont que 29%, ils ne sont pas forcément, les mieux placés en termes de pourcentage, mais pourquoi ils n'iront pas en playoff ?
Bah écoute, c'est une très bonne question. Je dirais avant tout, déjà parce que c'est les Lions. Alors c'est triste à dire, mais c'est quand même une équipe, il faut se dire que depuis 1967, donc depuis le démarrage de la NFL, ils ont une victoire en playoff. C'est hallucinant, c'était dans les années 90 avec Barry Sanders, contre les Cowboys, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est juste hallucinant. Donc c'est un club qui n'a pas appris à gagner. Et comme tu le dis, en fait, quand bien même la dynamique soit la meilleure, ils n'ont jamais que 29% aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ils partent de tellement loin qu'en fait, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et là, on part du principe qu'ils sont sur une bonne dynamique, ils vont tout gagner. Ah non, il y a quand même de grandes chances que les Lions, par exemple les Panthers, ça ressemble à un match potentiellement piège, etc. Il faudra vraiment être parfait. Et je veux dire, tu as combien d'équipes qui gagnent 9 de leurs 10 derniers matchs en NFL ? Franchement, c'est quelque chose d'assez rare à accomplir. Donc, on ne se rend pas compte à quel point ce serait historique s'ils le font. Moi, je vous l'avez compris par mon enthousiasme, je ne souhaite que ça. Je suis pro-Lions à mort et je l'assume. Bon, en plus, quand en face, il y a les Giants et les Commanders, je ne vais pas commencer à défendre ces équipes-là. Tant qu'à faire, s'ils peuvent leur mettre une pilule, moi, ça me va. Mais clairement, les Lions, il va falloir faire sans faute. Est-ce qu'aujourd'hui, menés par Jared Goff, ils ont les épaules pour ne jamais craquer ? Pas faire ce match à 3 pertes de balles, tu vois, pas faire cette contre-performance, etc., je ne sais pas.
Ouais, et puis après, tu en as parlé, toi, plutôt dans les choses qui te font dire qu'ils vont aller en play-off, mais je vais rajouter tout de même un petit mot sur cette défense. Certes, elle est mieux tout de même qu'en début de saison, où elle était catastrophique, mais bon, elle reste quand même une défense qui est relativement friable. Tu parlais de DVOA, si on prend une statistique de simple, on va dire, 398,5 yards encaissé par match, c'est beaucoup de yards, c'est la deuxième pire défense juste devant les Vikings. Donc bon, après les Vikings prouvent qu'on peut prendre beaucoup de yards et continuer de gagner des matchs, mais voilà, c'est vrai que cette défense-là, elle est relativement friable, et peut-être qu'au moment de faire les bonnes actions au bon moment, peut-être qu'elle va craquer, on verra ce que vont donner les Lions. En tout cas, toi tu es dans le train, malgré le fait que apparemment c'est un train dans lequel il n'y a plus de lumière, hein, parce que on va vous donner un petit inside, mais je suis avec Victor, il n'y a plus du tout de lumière, mais tant qu'il y a du son et tant qu'on t'entend, c'est un podcast après tout, tout va bien, mais tu es dans le train. Écoute, je pense que moi je suis à la gare, j'attends le train, et je le prendrai peut-être, ça sera facile, mais je le prendrai peut-être dimanche ou samedi, je crois qu'il joue samedi, on en parlera tout à l'heure, je prendrai peut-être samedi, mais toi t'es dans le train, c'est sûr.
Ah oui, à 100%.
Eh ben écoute, on espère qu'il va aller loin pour les Lions et pour toi du coup, mais on verra ça, et puis on va passer désormais à l'affiche de la semaine. On reste en NFC, donc, avec l'affiche de la semaine, les Vikings qui accueillent les New York Giants. C'est un match, on en parlera tout à l'heure, Victor, encore une fois, il y a des matchs un peu éclatés, et surtout, il y a encore plus de matchs samedi, Noël oblige. Donc, ça sera un match samedi à 19h, les Vikings qui sont à 11-3, qui sont déjà champions de leur division, qui visent désormais la meilleure position dans cette conférence NFC, et peut-être, pourquoi pas, la première. Et puis, en face, il y aura les Giants qui sont à 8-5-1, qui sont, eux, pour l'instant, qualifiables en playoff, on l'a dit, à l'heure actuelle, mais c'est pas forcément évident pour eux. On va commencer par Minnesota. Un match comme on l'a vu la semaine dernière, on le rappelle rapidement, le plus grand comeback de l'histoire de la NFL. Ça donne confiance forcément pour les Vikings quand on aborde cette fin de saison.
Oui, écoute, les Vikings, c'est quand même une équipe à part. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 9 victoires de 7 points au moins cette saison. C'est absolument incroyable de se dire que à quelques détails près, cette équipe, elle peut être en bilan négatif. Mais force est de constater qu'ils finissent par gagner les matchs, qu'ils ont la mentalité pour, que l'attaque et la défense sont, solidaires les uns des autres. On a vu le discours de Patrick Pederson à la mi-temps qui dit « Vous avez besoin de quoi ? 5 touchdowns ? Ok, nous, on s'occupe du reste. » Bon, évidemment, c'était un peu d'acom, mais il n'empêche qu'ils ont gagné. Écoute, t'as l'impression que cette équipe, bon an, mal an, elle a une bonne étoile cette année. Et à chaque fois, ça tourne dans le bon sens. Mais là, ils vont affronter une autre équipe qui a une bonne étoile, qui sont les Giants. Sur le papier, ils doivent gagner. Parce qu'en termes de talent, rien que Justin Jefferson, Adam Thielen et KJ Osborne face au defensive back des Giants, normalement, ça devrait dérouler. Mais on est sur un potentiel match piège.
Oui, on est sur un potentiel match piège. Tu disais, ils sont favoris sur le papier, ils jouent à domicile, ils sont à 7-1 pour l'instant à domicile. Il y a seuls les Cowboys qui sont venus les battre à Minnesota, à Minneapolis. Et on se rappelle ce match qui avait fini en 43. Et en face, il y a les Giants qui, tu le disais, qui ont une bonne étoile, qui font une bonne saison parce que déjà, ils sont bien au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer en début de saison. Je l'ai dit, ils sont à 8 victoires, 5 défaites, un match nul. Pour l'instant, ils sont devant les Commanders. Mais par contre, les Giants, à l'inverse des Vikings, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. On parlait des Lions tout à l'heure. On est dans la même course au play-off, sachant que les Eagles et les Cowboys sont plutôt loin devant, entre guillemets. Les Giants, ils vont pas devoir manquer trop de matchs en cette fin de saison.
Non, c'est sûr. Et en plus, le plan de jeu est quand même limité, puisque bon, leur receveur, c'est quoi? C'est Seton, O'James et Richie James. Enfin, c'est quand même extrêmement limité. Donc, c'est une équipe qui vit et meurt sur jeu de course, pass rush en défense, et gagner la bataille des turnovers. Donc, c'est vraiment ces trois facteurs qui font qu'ils réussissent ou non. Donc, comme souvent cette année, mais ils ont souvent fait parce qu'ils sont extrêmement bien coachés, il va falloir faire, entre guillemets, le match parfait et espérer, et ce n'est pas impossible, comme connaissant le bonhomme, que Kirk Cousins, de l'autre côté, fasse quelques offrandes qui leur permettent de glaner des points faciles. Donc, c'est une équipe qui, comme à chaque fois, va devoir faire un match parfait.
Et justement, est-ce que tu parlais de ce jeu au sol qui a été très bon, normalement, notamment depuis le début de la saison, mais qui parfois est bien contenu parce que c'est difficile d'avoir un plan de jeu uniquement jeu au sol. Est-ce que là, tu penses que face à des Vikings qui, je l'ai dit, prennent beaucoup de yards, mais c'est globalement quand même des yards à la passe, est-ce que ce jeu au sol peut se développer, peut être assez efficace pour mettre Daniel Jones et les Giants dans de bonnes conditions?
Bah écoute, de mes souvenirs un peu de l'affrontement avec les Eagles et de ce que j'ai vu, il y a quand même quelque chose qu'ils peuvent utiliser, et parfois j'ai l'impression qu'ils ne l'utilisent pas assez, c'est la capacité de mobilité de Daniel Jones lui-même, qui peut tout à fait courir, qui est un excellent coureur, et je pense qu'il va falloir qu'ils utilisent des systèmes de red option ou des choses comme ça, parce que s'ils veulent vraiment, entre guillemets, se concentrer sur la course, il faut donner plusieurs options de course. Course du quarterback, course du running back, etc. Donc, je pense que malgré tout, ça va être difficile de dire « Allez, on change notre plan de jeu, on met tout dans l'attaque aérienne parce qu'ils n'ont pas les receveurs pour. » Mais il va falloir être un peu inventif offensivement. Bon, après, un double, quand tu as coaché un Josh Allen, ce genre de plan de jeu, tu peux les mettre en place.
Oui, tu peux en effet effectivement les mettre en place. Et de l'autre côté du ballon, on le sait, les Vikings, ils sont un petit peu plus portés vers le jeu aérien. Tu as cité ces receveurs qui sont incroyables. Mais quand on regarde la défense des Giants, qui est pour le coup très bonne, elle a une petite difficulté au sol aussi. C'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai l'impression que pour moi, ça sera un peu la clé du match, le sol des deux côtés du terrain. Les Giants, ils encaissent 150 yards par match au sol. Est-ce que c'est pas Minnesota qui va devoir un petit peu changer son identité, entre guillemets, et essayer d'appuyer un peu plus au sol pour le coup?
Alors moi, je trouve quand même que les Giants vont mieux en défense au sol. En plus, ils commencent à récupérer des blessés. Je sais pas si McKinney sera de retour cette semaine parce que c'est encore un peu incertain, mais ils commencent à récupérer du monde. J'ai l'impression quand même que la boîte a gagné en constance, on va dire, ces dernières semaines. Je pense vraiment, pour moi, que la clé sera aérienne. Je pense que d'un côté, la question pour les Vikings, ça va être est-ce que Jefferson et Thielen arrivent à se démarquer rapidement? Et côté Giants, ça va être est-ce qu'on met la pression suffisamment vite pour réussir à empêcher Minnesota de faire son jeu?
Eh bien, écoute, on verra ça samedi, je l'ai dit, à 19h. On va enchaîner sur le prono. Ton prono pour ce match-là, entre les Giants et les Vikings, moi je vais le donner. En effet, tu as dit que la clé serait peut-être aérienne, j'ai parlé un petit peu plus du sol. C'est vrai que ce sera un match, à mon avis, serré, parce que les deux équipes font rarement des matchs où ce n'est pas serré. Mais je vais quand même partir sur les Vikings.
J'hésite, mais non, je vais jouer safe quand même. On est sur une course assez serrée. Je vais jouer Vikings aussi.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un choix qui est plus motivé par la tactique que par ta conviction profonde.
C'est ça. Et tu me permettras, du coup, en même temps que tu dis tes pronos, j'ai rempli sur le fichier, puisque des gens ne le savent pas, mais t'es un peu le mauvais élève. Hein. C'est alors, celui qui remplit jamais. Hein,
bon. Alors, puisque je prends un tir en direct, je vais y répondre. Je vais y répondre. C'est totalement vrai. Je ne remplis jamais ou alors très en retard. Mais c'est surtout que j'ai voulu le faire ce matin. On enregistre mercredi encore une fois. J'ai voulu le faire ce matin ou hier soir, pardon. J'ai voulu le faire hier soir et les affiches n'étaient pas mises en place. Alors, je ne sais pas qui s'occupe de mettre les affiches sur le tableau Excel.
Mais tu peux le faire. C'est toi. Tu es tout à fait en capacité de remplir un Excel.
Ouais, mais j'ai pas voulu qu'on prenne ça pour un dépassement de fonction. Déjà que je suis pas bon à faire les pronos, je vais pas en plus mettre les affiches. Donc voilà, écoute, j'ai pris un tir, mais j'aurais pas dû sur ce match-là. Mais en effet, on va passer au prono et on va parler de ça. Et je te laisse remplir les pronos en même temps que je les donne. On passe au prono de suite. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Let's go. Work on three. One, two, three. Work. Justement, dans ces pronos, ça a bougé en tête de cette course au pronostic. Je crois que la semaine dernière, on a énervé Alain. On a dit que vous étiez repassé devant. Et bien, cette semaine, il s'est fâché. Il fait un 12 sur 16 la semaine dernière. Il repasse devant avec 138 points. Tu es à 137, je crois, si je ne me trompe pas. On a une petite semaine de Grégory qui est à 136. Et puis derrière, on a Raoul et Raphaël qui font une très bonne semaine, qui sont à 12 bons pronos, mais qui restent un peu derrière. Et encore une fois, lamentablement en dernier, puisque moi, je ne compte pas, vu que je suis le présentateur, je ne donne pas mon score. Mais Raoul et Raphaël sont à 134 et 133. Ça va être des dernières semaines décisives. J'espère que tu es prêt, Victor, quand même. Hein.
Mais tu sais, tu n'as jamais que 8 points sur le leader. Avec les matchs en play-off qui comptent double, etc., t'es pas out de la course. Hein.
Oui, mais tu sais, je joue le rôle de la personne qui est dernière, qui revient de loin. Moi, j'ai de toute façon, j'ai qu'un objectif dans cette course au pronostic, c'est d'être devant Raphaël. Et il m'a mis tellement de tirs quand je vois comment il est pas bon. La semaine dernière, c'est toi qui lui a mis un tir. J'ai vu que sur Twitter, il avait répondu. Ben, je lui mets moi. Il m'a tellement mis de tirs qu'il faut qu'il sache que c'est mon seul objectif. Je joue pas la tête, je joue simplement d'être devant Raphaël. Donc on verra ça. Mais justement, cette semaine, on a encore beaucoup de matchs parce que comme tu l'as dit, il y aura les playoffs avec des matchs à deux points et puis surtout, il y a des semaines avec énormément de match. Je l'ai dit, il y a forcément un match jeudi soir et puis ensuite il y aura 11 matchs samedi, 3 matchs dimanche parce que c'est Noël et puis il y aura le Monday Night Football. Donc beaucoup de matchs un peu éparpillés, on perd des habitudes mais nous on va continuer dans notre hypomètre et je vais te laisser la main pour commencer avec le premier match de ce hypomètre.
Eh bien écoute, je vais choisir le match qui devait, hein, je donne un peu les coulisses, mais qui devait être notre affiche avant la blessure de Jalen Hurts. Je vais commencer par Cowboys Eagles. Parce que malgré tout, on a la possibilité du côté des Eagles de devenir officiellement premier de la conférence. On a de l'autre côté, au niveau des Cowboys, l'envie déjà de battre un rival, l'envie de ne pas donner la division à domicile. Quand même symboliquement, tu vois, abandonner la division à domicile à un rival direct, c'est un peu difficile. Et puis, il y a aussi l'envie de garder quand même une bonne dynamique pour assurer la cinquième place en division. On est sur un match de NFC Est typique. Ce n'est pas parce que c'est Gardner Minshew, ça sera très probablement Gardner Minshew, hein. Mais ce n'est pas pour autant que les Eagles ont perdu ce match. Ça va quand même être un bel affrontement. Je pense malgré tout que passer de Hurts à Minshew, c'est changer tout un playbook offensif ou presque. Et ça fait un peu de changement en seulement 4 ou 5 jours, sachant que Minshew n'était même pas là hier à cause de l'enterrement de Mike Leach. Donc je pense que, on va dire qu'à l'expérience et du fait qu'il soit à domicile, je pars sur les Cowboys.
Oui, parce que tu l'as dit, Jalen Hurts qui est touché à l'épaule, qui n'est pas sûr de jouer, en effet qui est incertain. Et puis comme tu l'as dit, pour l'instant les Eagles sont quand même ont un petit matelas. Et donc même s'il y avait un petit doute sur l'épaule de Jalen Hurts, je pense qu'on va le garder au chaud. Ça sera certainement Gardner Minshew. Et puis surtout les Eagles qui ont besoin d'un match sur les trois pour s'assurer à minima la division. Après, voilà, c'est vrai que si Dallas gagne, il reviendrait à deux matchs. Il faudrait faire une fin de saison parfaite et imaginer que Philadelphia chute complètement. Mais bon, ça resterait possible et surtout, ça leur donnerait peut-être un bol de confiance. Moi, je vais partir sur les Eagles tout de même.
Ouais, mais en fait, tu me permets, j'étais parti sur du stratégique. Mais en fait, ça me fait trop mal au cœur de parier Cowboys. Donc, je vais changer, en fait. Je vais mettre Eagles. Tant pis si je perds un point contre Greg, mais je peux pas, en fait.
Ouais, je t'ai vu hésiter pendant que je parlais. Je te voyais hésiter. Ça se faisait vraiment trop mal.
J'étais en train de me dire, vraiment, c'est trop dur, là. Je voyais mon nom attaché à Cowboys dans le fichier Excel. J'ai fait, non, ça va pas le faire.
Ça aurait été n'importe qui, tu l'aurais fait, mais les Cowboys, c'était compliqué.
Ouais, exactement.
Je comprends. Bah écoute, Eagles pour nous deux. Moi, je vais enchaîner sur Jets-Jaguars. On a pas mal parlé des Jets, des Jaguars ces derniers temps. Je trouve que c'est un match qui est globalement décisif. C'est pas tant pour le niveau de jeu, encore que. Les deux équipes sont plutôt pas mal. Mais c'est surtout pour ce match décisif. C'est le Thursday Night Football, le match de jeudi soir. Et je trouve qu'il est décisif dans la qualification au playoff, les Jets sont à 7-7, les Jaguars sont à 6-8, mais ils ont vraiment le vent en poupe. Et une victoire à New York leur ferait énormément de bien pour cette course au playoff, justement, pour continuer éventuellement de mettre la pression sur les Titans. Et puis, c'est une belle opposition entre attaque et défense. On l'a dit, les Jets, c'est vraiment la défense qui les caractérise. Les Jaguars montrent de plus en plus que cette attaque peut-être embêter quasiment n'importe qui. J'ai envie de voir Trevor Lawrence face à cette défense de New York et ça me hype plutôt, ouais.
Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un match, vraiment, je crois que depuis le match d'ouverture, il n'y avait pas un match du jeudi qui m'avait autant hypé. Les Jaguars, en fait, c'est le moment. C'est le moment où il faut gagner pour dire la division est loin d'être jouée. On continue à appuyer, enfin vraiment à souffler dans le coup des Titans, parce que ce dont j'ai envie personnellement, c'est de ce match à la dernière semaine Titans-Jaguars, c'est pour gagner la division. Et c'est vrai que c'est un peu le côté storytelling, j'avoue. Il y a aussi le côté affectif de Doug Peterson, sûrement. Mais j'ai vraiment envie que cette belle histoire des Jaguars continue. Après, attention, parce que les Jets, on sait à quel point cette défense peut être redoutable. Les mauvais jours de Trevor Lawrence, on peut se retrouver à un match où les Jets, ils concèdent 7 ou 10 points. Et même avec Zach Wilson, ils peuvent gagner 19 à 10, tu vois. Donc, c'est un match vraiment incertain. Et j'ai vraiment hâte de le suivre. Mais je vais partir sur les Jaguars.
Ah, eh bien, moi, je vais partir aussi sur les Jaguars avec ce désir, peut-être, comme tu le dis, un peu au fond de nous, d'avoir ce beau storytelling dans cette AFC Sud. Je pars sur les Jaguars aussi.
Bah écoute, le prochain match, on va rester dans les playoffs de NFC, hein, puisque c'est un peu le thème aujourd'hui. Ça va être Niners contre Commanders. Parce que bon, les Niners aujourd'hui, c'est l'équipe la plus en forme de la Ligue sur ces dernières semaines. On va dire avec les Eagles, mais globalement, ils ont une dynamique qui est assez incroyable. Ils ont réussi à établir un plan de jeu assez simplifié pour Brock Purdy, ce qui est exactement ce qu'il faut faire. Et de l'autre côté, ben, on a des Commanders qui ont pris un coup sur la tête avec cette défaite face aux Giants. Et là, aujourd'hui, leurs espoirs de playoff, ils passent par un upset, une victoire surprise contre les Niners. Donc, ils sont dos au mur et ils ne vont pas être faciles à jouer parce que, tu sais, les Commanders, c'est jamais une équipe facile, et en plus, dos au mur comme ça, où ils ont tout à jouer alors que les Niners en face, bon, ils viennent de clincher division et tout, je pense pas que ça va être un match facile. Cependant, je vais quand même partir sur les Niners.
Moi aussi, je vais partir sur les Niners, mais en effet, ce sera un match, à mon avis, plutôt intéressant. C'est un match de samedi à 22h, et en effet, ça peut être un match serré, mais je pars sur San Francisco aussi. Et puis, j'enchaîne dans la foulée, toujours en NFC, Panthers face aux Lions, le prochain pour moi. On a beaucoup parlé des Lions tout à l'heure, mais parler un petit peu des Panthers, qui étaient plutôt en forme. On les avait hypés, notamment la semaine dernière, toi et moi, et puis ils ont été un petit peu plus en difficulté. Mais comme tu le disais tout à l'heure, certes, les Lions sont très bons, mais ça peut être un match où peut y avoir une surprise entre guillemets, même si c'est à Carolina, et les Panthers sont toujours et plus que jamais en course pour les playoffs. playoffs, tout comme les Lions, parce que ils sont certes à 5-9, mais ils sont à un match de la tête, un peu comme toutes les équipes dans cette NFC Sud. Donc ça peut être un match, encore une fois, décisif. On arrive sur des matchs quasiment que décisifs, mais celui-là, il l'est particulièrement.
Oui, bah, de toute façon, je pense que cette division va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière semaine, hein, parce qu'à partir du moment où les quatre équipes se tiennent en un match, il y en aura au moins deux qui vont rester au contact jusqu'à la dernière semaine. Je pense que là, ça doit être le statement game des Lions. Mais comme on en a parlé, en effet, le potentiel match piège, il est là. Sam Darnold, il sait gérer un match. Il y a une défense des Panthers qui sait créer des turnovers. Bah, écoute, sur un match, c'est loin d'être joué. C'est pas un cadeau. Et pour l'instant, on a exactement le même classement de hype, toi et moi. Parce que j'avais les mêmes matchs aux mêmes endroits.
C'est vrai, pour l'instant on est bon.
Mais je pars sur les Lions malgré tout.
Allez, moi aussi je pars sur les Lions et puis on va voir si c'est là que ça commence peut-être, que le classement de hype va peut-être commencer à être divergent. Je te laisse la main pour la suite.
Eh bien écoute, je vais te faire plaisir parce que mon prochain match c'est Patriots-Bengals.
Qui était plus bas dans ma liste, mais en effet.
Oh, c'est beau à toi cette impartialité. Puisque tout le monde le sait, tu es un grand fan des Bengals, évidemment.
Exactement, Cincinnati.
Non, écoute, alors sans faire injure aux Patriots, qui sont devenus maîtres dans l'art du divertissement, en perdant des matchs de manière assez originale. Moi, j'ai surtout évidemment envie de voir les Bengals, qui sont. Alors là, on parlait d'équipe chaude en NFC. L'équipe la plus chaude de ces dernières semaines en AFC, c'est Bengals. Hein. On retrouve cette équipe de fin de saison dernière, là, capable de tout gagner. Bah écoute, face à un Bill Belichick que je respecte toujours, mais que je trouve un peu vieux, usé et fatigué cette saison, sans manquer de respect à la légende qu'il est, bah théoriquement, ça doit être le moment où Joe Burrow, il les écrase, quoi. Et donc, comme c'est un match où les Patriots doivent se faire écraser, c'est un match qu'ils vont réussir à tenir jusqu'au dernier drive. Parce que c'est comme ça que les Patriots vivent. Et du coup, il y a quand même voilà, un affrontement entre un maître défensif et une attaque inarrêtable. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Parce que je pense que si les Bengals marquent, allez, 27 points, ils ont gagné le match.
J'aurais dit 12, moi, personnellement. Mais c'est vrai que je chante. Mais je suis assez d'accord avec toi. Et en effet, quand on regarde ce match et les dynamiques, pour moi, les Bengals, s'ils sont dans la construction de leur saison comme ils le sont depuis le début, c'est un match qui ne doit pas leur poser de soucis. C'est un match qui doit être facile. Je mets des gros guillemets, il n'y a pas de match facile, surtout à New England et surtout au mois de décembre. Mais c'est un match qu'ils doivent gérer globalement de bout en bout, un peu comme l'ont fait les Bills il y a quelques semaines face aux Patriots, pour montrer que voilà, les Bengals sont vraiment dans une catégorie bien au-dessus que ces équipes qui sont dans le milieu de tableau de cette AFC qui se battent un peu pour les wildcards. Et voilà, après je suis assez confiant pour les Bengals et puis je vais surtout mettre Bengals. Vous le savez, j'ai l'habitude de parier contre les Patriots, mais ce week-end je pense que ça devrait pas me faire perdre 2 points.
Non, normalement je pense qu'on est tous assez d'accord. C'est marrant, il y a beaucoup de pronostics unanimes dans la rédaction, mais pensez bien que il y a beaucoup de pronostics unanimes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stratégies dans ces dernières semaines, ce qui entraîne les gens à ne pas prendre forcément beaucoup de risques.
L'avantage, c'est que n'ayant pas vu le tableau et surtout étant dernier, il n'y a pas de stratégie. Moi, je fais ça au feeling, voire même, certains diront, au doigt mouillé. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais enchaîner et ce sera peut-être la surprise pour moi de la semaine. Je vais commencer par mon prono sur ce match-là et puis après, on en parlera. Les Titans face aux Texans. Un match dans cette division d'AFC Sud, on en parlait tout à l'heure, les Titans qui ont un peu chaud, ils sont à 7-7, ils voient les Jaguars revenir et puis surtout ils sont dans une très mauvaise dynamique. Et j'ai bien aimé ce font les Texans depuis 2 semaines, on le disait, on le répète, ils sont assez accrocheurs, ils sont plutôt bons, c'est pas exceptionnel, mais c'est au mental. Et pourquoi pas, je vois pourquoi pas Houston aller battre Tennessee à Tennessee, ça sera samedi à 19h.
Bah écoute, je comprends, notamment la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, les Texans jouent sans Nico Collins, sans Brandon Cooks et sans Damien Pierce. Et ils ont quand même réussi à bouger les Chiefs. Donc oui, c'est une équipe qui a rien à perdre. C'est une équipe en plus, honnêtement, si je suis un peu taquin, même s'ils gagnent un match, ils seront quand même premiers de la draft. Hein, donc...
Ouais, ils se sont assurés le fait de pouvoir gagner un match sans que ça altère leur stock pour la draft, comme on dit.
Voilà, et s'ils en gagnent un, Bon, il y a de grandes chances qu'ils aimeraient gagner contre un rival de division. Je suis quand même parti sur Titans, mais j'entends tous tes arguments. Et tu me dis à la fin de la semaine que les Texans ont fait l'upset. Je ne tombe pas de ma chaise. Je pense en effet que les dynamiques en NFL, c'est important. Et que les Titans sont un peu perdus. Mike Vrabel, pour la première fois depuis qu'il est coach, semble avoir perdu un peu le fil. C'est un peu caricatural, vous en parliez dans le podcast d'hier. C'est on court, et de temps en temps, on tente de passer. Bah oui, bah les autres, ils mettent 7 mecs dans la boîte, et puis ils disent, bon, on va se prendre une ou deux grosses passes, et puis on va vivre avec. Donc, il va falloir quand même diversifier le jeu. Tu me permettras de dire que moi, ce qui m'inquiète beaucoup sur les Titans, c'est qu'ils ont préféré mettre sur le terrain Tannehill, qui ne pouvait plus marcher, que Malik Willis. Ce qui veut quand même dire, à mon avis, beaucoup de ce qu'ils pensent du niveau de Willis aujourd'hui.
Écoute, voilà, ça sera en tout cas Titans pour toi, peut-être voilà, pour assurer le coup. En tout cas, Texan, je tente le coup, ça sera mon coup de la semaine.
Ouais, je comprends. Je comprends et ça me choque pas particulièrement. Écoute, moi de mon côté, sur le match suivant, je vais partir sur Dolphins-Packers. Parce que, sur le papier, les Dolphins sont supérieurs. OK. En attendant, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. En attendant, les Packers ont retrouvé un peu de confiance et sont toujours mathématiquement dans la course au playoff. En attendant, Aaron Rodgers, il ne va pas lâcher comme ça. Hein, c'est pas le genre de la maison. Attention aux Dolphins. Voilà, il y a eu 3 défaites. Une dernière qui était encourageante, certes. Mais il faut retrouver la colonne des victoires rapidement pour ne pas sortir des playoffs. Et le match contre les Packers, c'est le genre de match qu'ils doivent gagner. Alors après, est-ce qu'ils vont le faire? Je pense que oui. Et je mise les Dolphins. Mais attention à ne pas jouer trop facile.
Je suis d'accord. Pour moi, c'est un match qui doit permettre aux Dolphins de se dire, voilà, c'est derrière nous. On a fait une défaite encourageante, entre guillemets, face aux Bills. On retrouve la victoire et on enchaîne sur des potentiels wildcards. S'il y a défaite, ça sera beaucoup plus alarmant. Et c'est pour ça que je vais dire les Dolphins, ils ont un peu le couteau sous la gorge sur ce match-là. Et donc, ce sera un match dimanche à 19h. Hein. C'est un des rares matchs qui a un horaire à peu près habituel, même si dimanche, je le rappelle une nouvelle fois, c'est Noël. Je doute qu'il faille le rappeler à chaque fois, mais je le fais quand même. Je pense que tout le monde est au courant. Mais voilà, ce sera le match dimanche. Et pour toi et moi, ce sera les Dolphins. Moi, je vais enchaîner avec Kansas City face à Seattle, un match de samedi à 19h, un match qui, à mon avis, va nous donner pas mal de points des deux côtés, même si Seattle a eu pas mal de soucis face aux 49ers lors du dernier match, mais bon, je pense que la défense des Chiefs n'est pas aussi bonne et aussi performante que celle des 49ers, et du coup, ça peut rentrer dans un match où il y a un feu d'artifice, comme on dit, un mano à mano, et ça peut être plutôt intéressant. Je vais miser, moi, les Chiefs, mais je pense que c'est un match auquel il faut jeter un petit coup d'œil.
Ouais, les Chiefs, ils ont pas rassuré. Hein. C'est quand même pas, ça reste une top équipe, etc. Tout ce qu'on veut, mais bon, Seattle, ils offrent pas des matchs cette saison, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en tout début de saison. Donc, il va falloir, normalement, ça doit passer. Mais il va falloir être sérieux et ne pas, on va dire, faire preuve un peu de... Je ne sais pas si c'est d'insuffisance ou d'arrogance, mais...
Désinvolture. J'ai l'habitude de dire que les Chiefs sont un peu désinvoles. Je les trouve, ce n'est pas vraiment de l'arrogance, comme tu le dis, mais c'est toujours un peu, parfois, laisser des choses qui ne devraient pas être. Qui ne devaient pas être, pardon.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais bon, en tout cas, pour les Seahawks, s'ils veulent, entre guillemets... prendre justement, éviter le retour des Lions et prendre un peu de marge par rapport à Washington, s'ils doivent faire une victoire surprise, c'est dans ce match-là. Il va falloir profiter, il va falloir espérer un match à 3-4 pertes de balles comme les Chiefs sont capables de le faire.
En effet. Bon, en tout cas, ce sera les Chiefs pour toi. En tout cas, ça l'est pour moi.
Oui, c'est les Chiefs pour moi aussi. Je pense que c'est assez clair. Le prochain match, Ravens-Falcons.
Ça sent le jeu au sol. Là, ça sent le jeu au sol.
Ah bah oui, là, ça sent pas le... Ça sent pas le Air Raid Offense, ça c'est sûr. Écoute, en soi, je ne sais pas quoi penser de ces deux équipes. Parce qu'en fait, Baltimore, ils sont à 9-5, mais sans Lamar Jackson, c'est juste une équipe banale, voire faible. La défense qui a tenu cette équipe pendant des semaines commence à montrer des signes de fatigue, et c'est difficile de leur en vouloir. Et de l'autre côté, les Falcons, bah moi, à chaque fois, j'y crois. À chaque fois, je me dis, ah, ils sont pas loin, ils ont des armes, etc. Machin. Le fait est qu'aujourd'hui, bah, ils sont dans la course, hein, parce qu'ils sont dans cette fameuse NFC Sud, mais ils perdent des matchs qu'ils doivent gagner, comme le match face aux Saints la semaine dernière. Donc, Desmond Ridder a eu un match où il est monté en puissance, si on veut. Il est parti de très bas, donc il a fini un peu mieux qu'il a démarré. Je te vois faire la moue. Mais là, c'est le match où il va falloir qu'il se révèle, parce que y a la place, hein. Il y a la place pour les Falcons, mais ces équipes d'NFC Sud, il va falloir... c'est un peu comme les Panthers dont on a parlé sur les Lions. Il va falloir faire des victoires références si tu veux gagner cette division.
Ouais, il va falloir l'emporter. On verra si Lamar Jackson sera de retour. Tu l'as dit, s'il n'est pas là, ça peut changer pas mal de choses. Pour moi, on va voir, comme je l'ai dit, beaucoup de jeux au sol. Et je pense que dans ce secteur-là, malgré une bonne performance de Tyler Allgeier la semaine dernière, je pense que les Ravens sont meilleurs. Et je mise sur Baltimore.
Eh bien, écoute, moi, j'y crois. Peut-être que pour la troisième fois de la saison, ils vont me trahir. Peut-être que je suis trop fidèle en amour parce que Tyler Allgeier de BYU était un de mes chouchous. Mais je vais partir sur les Falcons.
C'est osé. Ravens,
je serai seul contre tous.
Mais écoute, ce sera samedi à 19h. Pour rester et finir, je crois qu'on les a toutes faites dans la NFC Sud. Pour moi, ce sera les Cardinals face aux Buccaneers. Non, il reste les Saints qu'on verra après. Cardinals-Buccaneers, le match de dimanche soir, le Sunday Night Football. C'est un match, je parlais des Dolphins tout à l'heure et des Bengals. C'est un match pour moi, les Buccaneers qui doivent gagner et vraiment, ils doivent vraiment s'imposer pour à minima se dire que ces équipes-là, ils arrivent à les battre parce que les Cardinals, on a vu ce que ça donnait face aux Broncos, c'est vraiment pas terrible depuis que Kyler Murray n'est plus là, et même quand il était là, c'était pas incroyable, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et du coup, Tampa Bay doit aller à Arizona, doit s'imposer et reprendre déjà une victoire, et puis reprendre un petit peu de confiance pour aborder ces deux derniers matchs qui vont être importants pour eux. Pour moi, ils doivent pas être accrochés sur ce match-là, sauf que j'ai peur que Tampa Bay soit accroché dans quasiment tous les matchs, voire même ne soit en difficulté dans tous les matchs.
Ouais, alors là, je vais te dire, je m'étais pris une claque quand j'avais dit que les Buccaneers ne pouvaient pas perdre contre les Panthers et ils avaient fini par perdre. Ah, là, si tu perds face aux Cardinals, il faut abandonner la saison, hein, faut arrêter. Faut partir à la retraite tout de suite, quoi. Enfin, là, j'ose même pas imaginer le tremblement de terre que serait une victoire des Cardinals. Non, normalement, les Buccaneers sont suffisamment de talent pour s'en sortir.
Pour moi, c'est Buccaneers aussi, mais c'est vrai qu'il faut gagner. Et j'ai même envie de dire, il va falloir gagner avec la manière pour quand même se donner de la confiance.
Oui.
Mais bon, je vais dire Tampa Bay quand même.
Bah, ils ont joué avec la manière contre les Bengals. Le seul problème, c'est que c'était que pendant une mi-temps. Quoi.
Ouais, ça peut suffire face à Arizona.
Oui, face à Arizona, ça peut suffire en effet. Bah, écoute, on va boucler la boucle. On va parler de Brown Saints. Donc, les Saints qui sont à un match de la tête de la division, comme tout le monde. Écoute, face aux Browns, de celui dont il ne faut pas prononcer le nom, j'ai l'impression qu'à Cleveland, paradoxalement, ce qui a changé ces dernières semaines, c'est que la défense est redevenue dominante, en fait. Là où les gens sont forcément plus focalisés sur l'attaque, évidemment, mais c'est la défense qui est de retour. Et je pense que cette défense, elle doit contenir les Saints, même si on sait que New Orleans a toujours ce potentiel, ce potentiel surprise avec Taysom Hill, etc. Enfin, ils sont difficilement lisibles. Mais bon, la défense de Cleveland doit faire le travail. Et de l'autre côté, bah, t'as une défense de New Orleans qui doit contenir l'attaque des Browns. Notamment pour moi l'attaque au sol, parce que la principale menace, ça reste et ça sera cette saison Nick Chubb. Ça changera peut-être l'année prochaine, mais en tout cas aujourd'hui c'est le cas. Donc on va dire qu'au point, je pense que les Browns vont emporter, mais on est sur un bon 50-50.
Oui, surtout que New Orleans a eu beaucoup de mal face au sol la semaine dernière. Tu parlais d'Al-Jair tout à l'heure. Il avait fait une grosse performance face aux Saints. Donc peut-être que Nick Chubb va réitérer aussi. Pour moi, ça sera les Browns aussi. Et malgré le fait que New Orleans soit à un match de la tête de la division et donc des playoffs, pour moi, c'est vraiment un match qui doit miser sur l'avenir, qui permet à ces deux équipes de travailler sur l'avenir avec beaucoup de jeunes dont on a parlé hier avec Raph du côté de New Orleans. Une attaque qui se recherche de nouveau du côté de Cleveland. Et je vais partir sur les Browns, mais pour moi, ces deux équipes-là, elles travaillent pour 2023. La suite, je vais partir sur Chicago face à Buffalo. Je le disais hier, les Bears, c'est une équipe que j'ai du mal à cerner parce que quand je les regarde, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui est à 3-11. Et pourtant, ils ont gagné que 3 matchs. De l'autre côté, il y a Buffalo qui commence à rassurer de nouveau. Et puis, ne serait-ce que pour l'affrontement entre guillemets entre deux quarterbacks qui courent de manière très efficace, Justin Fields, Josh Allen, c'est peut-être deux des meilleurs coureurs quarterbacks de la ligue. Et je trouve que cet affrontement peut être sympa à regarder, donc ça sera Chicago-Buffalo pour moi pour le prochain match.
Ouais, bah, je pense que Buffalo, depuis l'avènement entre guillemets de Justin Fields, ce qui fait surtout du mal à Chicago, c'est que la défense est toujours aussi mauvaise. Ils ont réalisé une bonne prestation contre les Eagles, hein, mais sur le global des deux derniers mois, ça reste complètement catastrophique. D'autre côté, t'as en effet une attaque débile, tu commences à trouver du rythme. Moi, je vais te dire, j'ai surtout l'impression que Les Bears marqueront peut-être 25-30 points, hein, mais les Bills risquent d'en marquer 45. Donc, je vois pas beaucoup de monde où les Bills perdent. Et personnellement, je souhaite à Stephen Diggs de faire la meilleure performance possible, hein, pour ma demi-finale de Fantasy. Je n'oublie pas. Bon, il nous reste 3 matchs.
Je me permets de dire que ce sera les Bills pour moi le pronostic.
Pardon.
Non, mais je pense que c'était
ça,
plutôt...
J'avais l'impression que ça découlait de,
oui,
de,
voilà. Ça l'était, ça
de
l'était.
Ton argumentaire, en effet. J'avais pris pour un acquis. Je vais prendre le dernier des 3 matchs qui est équilibré sur le papier. Je vais prendre Steelers-Raiders. Les Steelers qui récupèrent Kenny Pickett, qui sont sur une bonne dynamique. La défense est en train de redevenir la défense dominante qu'on a connue, et le retour de T.J. Watt en grande forme n'est pas forcément innocent à ça. Je vais te dire, alors je vais faire de la psychologie de comptoir, hein, mais ça fait des années qu'on parle du fait que que Mike Tomlin n'a jamais eu une saison négative, etc. Ils sont à 6-8, il reste 3 matchs.
2 chances sur 3, au moins pour sauver les meubles.
Tu sais que c'est pas impossible. Et en face, bah, les Raiders, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je veux dire, quand ils doivent gagner, ils perdent. Quand ils doivent perdre, ils gagnent. Là, quand même, ils sont passés à une cagade près des Patriots de perdre un quatrième ou un cinquième match d'affilée cette saison en menant 17 points. Enfin, elle est illisible, cette équipe. Davante Adams, il a disparu. Enfin, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'en fait, les Raiders, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent battre les Steelers, tu vois, 35-7 dans un match démonstration. Et ils peuvent perdre le match 28-10 en ayant lancé 3 interceptions et fait un fumble, quoi. J'arrive pas à lire cette équipe. J'ai l'impression que parier pour ou contre les Raiders, c'est lancer une pièce en l'air et espérer qu'elle tombe du bon côté.
Je suis assez d'accord. Est-ce que je trouve drôle, tu parlais des Steelers, de leur potentielle saison qui ne serait pas en négatif. Il faut le rappeler, ils ont exactement le même bilan que les Jaguars. Et ça fait quelques jours qu'on dit que les Jaguars peuvent potentiellement aller en playoff. Alors forcément, c'est parce qu'il y a cette division qui est attrapable. Mais voilà, ils sont à 6-8. Donc bon, c'est drôle la différence de point de vue qu'on a sur des équipes qui ont le même bilan, même si la situation n'est pas tout à fait pareille. Mais voilà, les Steelers, ils lâchent jamais, en tout cas, parce que, tu l'as dit, ils sont bien coachés, ils manquent du talent. Notamment du talent qu'il y a par exemple du côté des Raiders. On parle beaucoup de tous ces joueurs, notamment offensifs, mais il manque un peu de talent du côté des Steelers. Mais c'est très bien coaché et ça lâchera rien. Et c'est pour ça que je vais tenter les Steelers sur ce match.
Et moi aussi.
Le dernier match pour moi, il en restera un pour toi, tu n'auras pas le choix. Ce sera Los Angeles Rams, Denver Broncos. Tu avais pris le dernier match équilibré.
Non. Ah, tu prends Rams Broncos?
Oui, je prends, Rams Broncos.
Ah, quel grand seigneur.
Oui,
quel
écoute,
grand seigneur.
Écoute, oui, je t'ai vu hésiter parce qu'il reste les deux équipes de Los Angeles.
Non, mais t'as commencé par Los Angeles, alors moi, mon cerveau était parti sur l'autre. Mais...
Oui, parce que pour toi, tu estimes qu'il n'y a plus qu'une équipe de Los Angeles cette saison.
Exactement.
Et c'est vrai que ce n'est pas totalement faux, parce que quand on a vu les Rams perdre face aux Packers, définitivement éliminés de cette course au playoff, même s'il n'y avait plus trop de doutes, ces deux équipes entre les Rams et les Broncos qui sont à 4-10, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est que bon, on va essayer d'observer des choses, la défense des Rams, on va essayer d'observer peut-être la continuité de l'attaque des Broncos qui depuis deux matchs a des petits flashs de temps en temps, ce qui est déjà mieux que depuis le début de la saison. Donc c'est un match qui se jouera dimanche à 22h30. Bon, au bout d'un moment il faut le choisir ce match-là, donc je l'ai choisi. Difficile de s'hyper totalement, mais il y a peut-être quelque chose intéressant à retirer de ce match-là.
Ah bon? Écoute, j'aime vraiment pas être le mec un peu défaitiste machin, mais oh là là, mais je pense aux supporters des Broncos qui ont été obligés de se taper un Broncos Cardinals, qui disent je suis arrivé au bout de ça, et qui derrière se tape un Broncos Rams. T'as envie de mourir. Hein. Cette équipe des Broncos, elle est irregardable. Vraiment. Avec tout l'amour que j'ai, c'est une franchise que j'adore, hein, mais c'est irregardable, quoi. Du coup, bon, c'est assez compliqué pour moi à envisager. Je vais partir sur les Broncos parce que je pense que la défense fera le travail. Mais je vais pas vous mentir, il est possible que je ne regarde même pas 40 minutes de celui-là.
Écoute, ce sera Broncos pour moi aussi. Et pareil, je me laisse encore le choix, le suspense de voir si on regardera ce match, les 40 minutes de ce match-là, qui s'annonce pas forcément hyper excitant, c'est vrai.
Écoute, du coup, pour finir, et je vais te surprendre, je vais prendre Chargers Colts. Je vais prendre Chargers Colts parce que, écoute, cette équipe des Chargers, elle est quand même sur une très bonne dynamique. On le disait, ils étaient à un tournant avec cet enchaînement Dolphins-Titans. Ils en sont sortis avec deux victoires. On ne peut pas vraiment espérer mieux. Ils risquent, dans le bon sens du terme, d'accrocher les playoffs, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, puisqu'ils avaient échoué la dernière semaine. Bah écoute, bravo. C'est cette semaine qu'il ne faut pas flancher, en battant une équipe des Colts qui, je l'imagine, psychologiquement, risque d'être un peu au fond du trou.
Oui, ça peut être compliqué pour les Colts, en effet. Et moi, pour moi, ce sera en effet les Chargers. Ce sera le dernier match de ce week-end-là. C'est le dernier match pour ce hypomètre et le dernier match de cette semaine 16, puisque ce sera le Monday Night Football. Chargers pour tous les deux. Et puis, on va passer de suite aux cotes de la semaine. Les cotes de la semaine, donc, avec notre partenaire Unibet. On va commencer par le pari normal, on va dire, des choses qui sont peut-être jouables, tentables en tout cas. Je ne sais pas si tu t'es noté quelques cotes. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer?
Bah écoute, j'avais les Lions à 1,61. Je trouvais ça haut, pour le coup, pour une équipe qui est quand même largement favorite. Si on reste pour l'instant dans le prono un peu raisonnable, hein, évidemment. Donc ça, c'est celui qui m'avait, entre guillemets, le plus choqué. Et après, bon, alors, il y a un match que j'aime bien, c'est Jets-Jaguars, mais la doctrine Mattei fait que les matchs du jeudi ne peuvent pas être inclus dans les paris, évidemment. L'autre que j'aimais bien aussi, c'était les Browns qui sont à 1,59.
Les Browns à 1,59, en effet. Alors, il y a les Lions à 1,61, je rajoute les Browns à 1,59. Et puis moi, je me suis noté deux. Alors, en effet, j'avais vu ce match-là aussi parce que les cotes sont tellement équilibrées entre les Jets et les Jaguars que ça a attiré. Mais comme tu le dis, beaucoup peut-être de nos auditeurs vont écouter ce podcast alors que le match sera déjà passé. Donc, on va éviter de pronostiquer des choses qui seront peut-être fausses. Mais je vais pourquoi pas tenter les Rams. J'ai vu que les Rams étaient à 2,03. Alors je sais qu'on a dit tout à l'heure les Broncos, mais c'est un match quand même qui, à mon avis, peut aller d'un côté ou de l'autre. Les Broncos nous ont pas montré particulièrement beaucoup de choses et d'assurance, de sécurité, de garantie, j'ai envie de dire. Donc je me dis que les Rams à 2-0-3, c'est pas particulièrement YOLO non plus.
Non. Ça se joue largement, oui.
Et écoute, si on ajoute ces Rams aux Lions et aux Browns dont tu as parlé tout à l'heure, on est sur une cote à 5,20. Donc pour une mise de 5 euros, on gagne 25,98 euros, quasiment 26 euros de gagner, ce qui est correct avec trois matchs qui quand même se jouent largement.
Tout à fait.
Et puis on va passer, pour terminer, au YOLO, à des paris qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Je vais me permettre de commencer, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la surprise de la semaine que j'imaginais, Houston, qui est à 2,78 face aux Titans. Pour moi, c'est tentable, c'est YOLO certes, mais c'est tentable.
Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que les Texans sont à 2,78, et les Eagles, qui certes sont sans Jalen Hurts, mais qui sont quand même à 13-1, sont à 2,62.
Bon, je vois qu'on avait les mêmes parce que je m'étais noté les Eagles aussi.
Alors là, ah ouais, non, mais 2,62, il y a un moment, vous êtes gentil, mais là, c'est une invitation quand même. Donc j'avais. Et si on voulait faire méga YOLO, j'avais les Falcons à 3,42.
Les Falcons à 3,42. Alors, je les cherche pour pouvoir les mettre. Les Falcons qui affrontent les Ravens à 3,42. Et puis là, on va forcément le dire. Mais donc avec les trois matchs dont on a parlé tout à l'heure, donc Lions, Browns, Rams, auxquels on ajoute Texans, Eagles, Falcons, on est sur une mise de 5 euros, une cote à 129, ce qui nous rapporterait 695,40 €. Forcément, ça peut être pas mal. Bon, il y a des choses qui sont des long shots, comme on dit. Mais pourquoi pas, pourquoi pas.
Et on rappelle évidemment, jouer raisonnablement, jouer dans la limite de vos capacités, ça doit rester un jeu, absolument pas une contrainte. Ça ne doit pas vous mettre en difficulté financièrement. Et il y avait un numéro d'appel qui est 09 74 75 13 13, qui est le numéro des services publics pour lutter contre les addictions au jeu. Donc si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à appeler ce numéro.
Tu fais bien de le rappeler une nouvelle fois. Bon, écoute, c'est comme ça que se termine l'épisode 561 du podcast Touchdown Actu. J'espère qu'on va passer un bon week-end déjà, parce qu'il y a beaucoup de NFL et beaucoup de NFL sympa à regarder. Et puis aussi parce qu'il y a Noël, pour ceux qui le fêtent ou ceux qui le fêtent pas. Je te souhaite de bonnes fêtes, Victor. Je suis pas sûr qu'on se revoie d'ici là. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as apprécié ce week-end.
Pareillement, écoute, oui, on va essayer d'apprécier ce week-end, et même pour ma part, les fêtes de Noël s'étendent un peu après Noël, donc on va essayer de profiter de cette semaine entre Noël et Nouvel An.
Oui, elles s'étendent jusqu'à mi-février, tu m'avais dit.
Oui, un truc assez. On fait Noël deux fois par semaine jusqu'à mi-février.
Voilà, un peu de manière soft. Bon, voilà, en tout cas, il y a encore de belles choses à écouter, à voir, à lire sur l'atmosphère, l'environnement, le Touchdown Actu, parce que forcément, vous retrouvez toutes les actus sur le site, sur les réseaux sociaux, les podcasts qui arrivent aussi avec la draft, les podcasts draft qui va arriver, la rétro, comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Et je crois qu'il y a un fauteuil qui se prépare. Alors, je ne sais pas si je spoil ou pas, je ne sais pas si Alain l'a annoncé, mais qui se prépare vendredi, je crois. Je l'ai dit, les matchs sont un peu enfouis cette semaine, et je crois qu'il y a un fauteuil vendredi. J'espère que j'ai pas gâché la surprise, mais
Non, il l'avait annoncé.
Il l'avait annoncé. C'est très bien.
Et la rétro de samedi, c'est le meilleur des cadeaux de Noël, puisque ça parlera d'un certain Super Bowl et d'un certain Nick Foles.
Ah, mais très bien. Je l'avais pas celle-là. Bah, écoute, je suis pas sûr, hein, puisque tu as rappelé mon amour pour une certaine équipe. Je suis pas sûr que je l'écouterai, cette rétro-là, mais je doute qu'elle sera incroyable. Voilà, on va terminer sur ça, messieurs, dames. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rodgers, Global Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. head to go.acast.com/closer to get started.